prend la page. On est dans notre deuxième cours, sur le troisième chapitre de Igarat HaTshuva. Allez, monsieur. On est dans le deuxième cours, sur le troisième chapitre de Igarat HaTshuva. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans les deux premiers chapitres de Igarat HaTshuva ? Dans le premier chapitre déjà, on a expliqué longuement que selon la Torah, l'essence de la Teshuva, c'est quoi ? C'est décider de ne plus fauter. Une fois qu'une personne a décidé de ne plus manquer de respect à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà une teshuva. Ça, c'est un point très très important que le Mourazakan a expliqué, qu'on va développer par la suite. Ensuite, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, le Mourazakan est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe post-teshuva, après la teshuva. Une fois qu'une personne a fait la teshuva, dès qu'il arrivera au jugement, le jour du grand jugement, on ne lui glissera pas un mot de ce qu'il a fait. Mais la trace est toujours là. Alors comment on fait pour enlever cette trace? Ça, on a expliqué, c'est comme le bouquet de fleurs. D'accord? Ça, c'est comme le bouquet de fleurs. Non. C'est à l'époque du Beth Amikdash, on amenait un sacrifice. D'accord? On amenait un corban. Après, ce corban, avec le temps, donc un corban, soit khatat, soit là, selon le cas. Après, avec le temps, dès que le Beth Amikdash était détruit, on a fait des ta'anit, des jeûnes. À quoi sert le jeûne? Le jeûne vient, comme on l'a expliqué longuement, à la place. Le jeûne vient remplacer le sacrifice, puisque c'est le même concept. Quand je jeûne, ça veut dire que je sacrifie de ma chair, je sacrifie de mes envies, je sacrifie de mes plaisirs. C'est la même chose, c'est même plus fort comme on a expliqué. Donc après, on a converti ça en jeûne. Ensuite, il a expliqué que plus tard est arrivé le Harizal, et le Harizal, il a dit que c'est pas simplement on vient comme ça en jeûne, on dit bon, j'ai fait une avéra, je fais un jeûne pour 10 avérotes, c'est pas ça, c'est pas comme ça. On dit que le Harizal, il a donné un nom précis de jeûne pour chaque avéra. Et même des avérotes qui pour nous ne nous paraissent pas des avérotes extraordinaires, des avérotes qui nous paraissent basiques, même pour ça, le Harizal, il a donné des chiffres très précis. D'accord? Il a donné des chiffres très précis, combien on a jeûné pour la colère, temps, etc. Bon. Alors, la Mourazakan, maintenant, dans le chapitre 3, a essayé de commencer à parler de la situation. Qu'est-ce qui se passe si une personne, d'accord? Donc, bon, on va dire que une personne qui a fauté plusieurs fois, disons, selon la Harizal, voilà, on a dit par exemple, celui qui a eu des pertes nocturnes volontaires, c'est 84 jeûnes.
Volontaire.
C'est 84 jeûnes. D'accord? C'est 84 jeunes. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe cette personne-là? C'est pas une fois qu'il a fait. D'accord? C'est 20 fois qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Alors, on a expliqué qu'il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Le message après le Harizal. Vous voyez, encore une fois, on va en décrescendo, on a commencé par les sacrifices, après les jeûnes à l'époque de la Gemara, après on a mis différents exemples de sages de la Gemara qui jeûnaient pour un oui, pour un non, etc. Parce que bon, etc., Cohen, les Israël, voilà. Ensuite, donc on a parlé du jeûne, ensuite on parle du Harizal, maintenant on dit, après le Harizal, il y a les sages qui sont posés la question, qu'est-ce qui se passe si une personne a fauté, a fait la même avéra, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a le droit, on a dit, de faire un seul jeûne, d'accord, ou bien une seule fois 84, par exemple, pour cet avéra. Donc, disons que le Harizal a dit 84 jeûnes pour cet avéra. D'accord?
Est-ce qu'il doit les refaire ensuite?
Alors, si une personne a fait 10 fois l'avéra, est-ce qu'il doit faire 84 jeûnes ou 840 jeûnes?
10 fois avant qu'il ait commencé, ne serait-ce qu'à jeûner.
Non. Et oui, voilà, il a fait 10 fois l'avéra. Est-ce qu'il doit faire 84 jeûnes ou est-ce qu'il doit faire 840 jeunes? Alors, rappelez-vous ce qu'on explique au début du cours. Sauf qu'il ne faut pas oublier, le jeûne n'est pas là pour pardonner. Ah, le pardon, il est automatique, il est avec la teshuva, le fait qu'une personne décide de plus recommencer, c'est, on a expliqué plusieurs fois, c'est une décision qui dure un instant. C'est une décision qui dure un instant. Très bien. Mais qu'on va devoir la travailler, elle vient pas comme ça, cette décision. Hein, vous allez voir que ça va prendre plusieurs chapitres pour expliquer comment on arrive à cette décision. Parce que c'est pas une décision qui est fictive, c'est une décision qui est réelle. Je dis vraiment que je veux pas recommencer. Mais là, on est déjà post-teshuva. Post-teshuva, d'accord? Qu'est-ce qu'a dit le Harizal? Il faut nettoyer la trace que j'ai fait avec l'avéra. Comment je nettoie? Avec les jeûnes. Donc par exemple, pour cette avéra qu'on a dit, 84 jeûnes. Qu'est-ce qui se passe si une personne a fait 10 fois cette avéra?
Je suis en raisonnement, c'est 840.
D'accord. Jeunes. Donc, est-ce que c'est 840 ou est-ce que c'est 84? Alors c'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est que d'un côté, on peut l'apparenter au korban khatat.
Donc auquel cas c'est 840.
D'accord. Parce que de le korban khatat, on a expliqué qu'on devait amener un korban par fois qu'on a fait l'avéra. Donc si tu as fait 10 fois, bah 10 korban khatat. Donc là, si c'est 84 jeûnes par avéra, ben ça fait combien? 10 fois, ça fait 840. D'un autre côté, on peut apparenter ça au korban Ola. Vu le korban Ola, on pouvait offrir un package, un korban.
Pour tous les...
On est d'accord?
Ouais.
Donc la question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous on fait? Ça, c'est les questions que sont posées les sages dans la génération post-Arizal.
Non, mais il fume, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer.
D'accord? Dans la génération post-Arizal. Quelle a été la réponse? La réponse était la suivante. La réponse a été que on va faire un juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est qu'on va faire trois fois. C'est-à-dire trois fois, on va jeûner trois fois. Donc trois fois le nombre de jeûnes que l'Arizal a dit. Par exemple, si c'est 84, ben 3 fois 84. Pourquoi 3?
C'est dans le 3? Cas où on faute une deuxième fois avant même qu'on a commencé.
Bien sûr, c'est évident. D'accord? Donc il a fauté, imaginez-vous une personne, il a fait 10 fois la Vera, 20 fois la Vera. Combien de fois il va jeûner? 3 fois le nombre de jeûnes que l'Arizal a dit. On a expliqué longuement pourquoi le chiffre 3. D'accord? Parce que le chiffre 3, c'est une fois qu'on a fait 3 fois une Vera, la Vera a transpercé. Donc le plus important, c'est la troisième fois. Le plus grave, c'est la troisième. Très bien. Bon. Non, on a expliqué, et là, on arrive à notre génération. Bonsoir. Là, on arrive à une génération. Là, on a expliqué tout ça. C'était à l'époque de la Gemara, à l'époque du Arizal, que les gens ils pouvaient jeûner très facilement. Les gens ils pouvaient jeûner très facilement. Mais aujourd'hui, que les gens ne veulent pas jeûner facilement, et que même s'il va se forcer de jeûner, non seulement que le jeûne ne va pas lui être bénéfique, mais au contraire, à cause du jeûne, il va se retrouver à moins faire Torah et Mitzvot. Il va se retrouver à dormir toute la journée, à s'énerver sur tout le monde, à faire ce que tu veux, etc. Alors, on a tout perdu, on n'a rien compris. Donc, c'est pour ça qu'il a demandé à Zaken, dans ce cas-là, on a non seulement qu'on ne peut pas jeûner, d'accord, non seulement qu'il ne doit pas jeûner, pardon, et il ne peut pas jeûner, c'est assour de jeûner, ça lui est interdit de jeûner. Et ça lui sera reproché au jour du grand jugement, hein. S'il a jeûné quand même, on lui dira pourquoi tu as jeûné, à cause de ça tu as moins étudié. D'accord? Ça rappelle une petite histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Il y a le Rav Kanievski, vous avez dû entendre parler, vous avez certainement dû entendre parler. Bon, c'est pas parti du groupe frassidique, mais bon, c'est très très grave. Le Rav Kanievski, pendant des années, depuis qu'il est jeune, d'accord, toujours ses élèves, ses enfants, il lui proposait de lui mettre la climatisation, l'air conditionné, dans la pièce où il étudie. D'accord, maintenant lui, il vient d'une yeshiva, etc., dans laquelle on est habitué à se... Donc il a jamais pris l'air conditionné. L'été, jamais. Il n'a jamais pris l'air conditionné. Et il avait des gens qui venaient pour lui poser des questions, des gens qui venaient pour lui donner des brachot, etc. Et toujours, on savait quand on rentrait chez lui, dans la pièce où il étudiait, il n'y avait pas d'air conditionné. Il étudiait comme ça, toujours en talit, etc. Bon, comme ça. Cette année-là, ses enfants, ils ont réussi à le convaincre. Ils ont dit, même si tu ne le fais pas pour toi, parce que cette année, il avait très chaud en Israël.
Fais-le pour ceux qui viennent
te rendre visite, c'est insupportable. Et partout, il y a l'air conditionné. Il dit, bon, d'accord, j'accepte pour ceux qui viennent. D'accord? Il a accepté qu'on lui mette l'air conditionné. Et quelques jours plus tard, il a dit, le limoud à Torah avec l'air conditionné, ça n'a rien à voir. Enfin, l'air conditionné. En d'autres termes, avec l'air conditionné, on a l'esprit beaucoup plus reposé, on peut étudier beaucoup mieux. Et il a dit, j'espère que quand je vais arriver en haut, on me reprochera pas le limoud à Torah que j'ai manqué à cause du fait que je voulais pas avoir l'air conditionné.
Il a dit ça?
Ça, il a dit.
Et pourquoi il voulait pas l'air conditionné?
C'est pas bon. Et
il n'avait pas l'habitude comme ça.
C'est des gens, tu sais, des gens de l'ancienne génération, des gens qui sont habitués à se suffire de peu. C'est ça. On a vu ça, chez beaucoup de sadikim, chez le rabbi aussi, on a vu beaucoup ça. Par exemple, le rabbi, pendant 40 ans, n'a jamais changé le réseau téléphonique. Il n'y a pas besoin, Il n'y a pas de climatisation dans son bureau non plus. Il y avait un petit ventilateur tourné, un petit truc qui faisait un peu d'air, mais ça n'a rien à voir avec le... Pourtant, il fait chaud à New York. C'est comme ça.
Enfin, il pouvait lui installer ce qu'il demandait.
C'est comme ça. Ton livre, il est là. Il y en a encore deux en dessous, dans la Bible. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, je reviens à notre sujet. Maintenant que, aujourd'hui, on peut plus jeûner, autant de jeûne. Même si tu m'as fait un deal, tu m'as dit, bon, pas 840, mais 252. D'accord? C'est-à-dire pour cet avéra-là qu'on a dit. Bon, au lieu de faire 10 fois 84, on t'a fait un prix de 3 fois 84. Attends, 252 jeunes, c'est pas possible. D'accord? Donc, ça, c'est la solution. Hein, c'est quoi la solution?
De payer.
Ah, payer combien?
De payer
combien?
On a un repas, hein,
462 jeunes. Il a dit 84 jeunes pour cet avéra. D'accord? C'est pas pour rien qu'on choisit cette avéra, parce que c'est une avéra qui est très grave, comme on expliquera par la suite. C'est une avéra qui est très grave, puisque c'est une avéra qui... Vous savez que les trois avérotes les plus graves qu'on connaît, c'est Avodah Zara, Gilui Arayot, Shechut Damim. L'idolâtrie, l'adultère, d'accord, et le meurtre. Et la Gemara Gittin, elle dit que dans cette Avera, d'accord, c'est-à-dire les pertes volontaires, il y a un peu d'étroit. Il y a un peu d'étroit, d'accord. Il y a un peu d'adultère, il y a un peu de meurtre, puisque la personne va tuer des néchamotes potentiels qui auront pu venir, surtout Al-Pikabala, on explique que carrément il a tué des vrais néchamotes, Malachim, et il y a aussi de l'Avodazara, parce qu'il a montré qu'il avait un autre Yitzhara qui était... Alors bien sûr, on ne dit pas que c'est Avodazara, mais ça s'apparente. Donc c'est pour ça que l'Admor Zaken y prend cet exemple.
Mais là, toi, c'est marqué où que c'est punissable?
Er et Onan.
Non, Onan c'est différent.
Non, c'est la même chose.
C'est pas ça.
C'est pratiquement la même chose. Oui, t'as raison, c'est pas écrit exactement ça. Non, mais la Gemara Gittin, elle dit clairement, hein, ça faut pas.
Non, pourquoi je demande, c'est la Gemara, d'accord. Onan, ça n'a rien à voir, il se retire avant parce qu'il voulait pas avoir d'enfants. Ça n'a rien à voir.
C'est la même chose.
Non, c'est que si tu veux penser à un accord de famille qui a 50 enfants, c'est autre chose.
Non. Et alors? D'abord, il était jeune quand il est mort. Il était jeune, peut-être que, même s'il l'a fait par exemple à 25 ans, à 30 ans. Ben, il avait jusqu'à 50 ans. D'abord, Dieu attend qu'il ait 50 ans, et après, il va dire, ouais. Ah, maintenant, il a pas fait.
Lui, il voulait pas avoir de descendance.
Et alors?
C'est pas pareil.
Je comprends pas, mais il a le temps de changer encore. Si tu dis que le problème, c'est parce qu'il a pas d'enfant, Dieu, il leur dit attendre qu'il a 50 ans. Là, il dit, ah, il a pas eu de descendance, on va le tuer. Donc, c'est clair qu'il y a un autre problème. Rachid dit clairement là-bas. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, on a dit, bon, tu me dis 252. Ok. On peut pas jeûner. Comment on fait si on peut pas jeûner? La tzaka. Combien, la tzaka? On prend, hein, la page 184, cette ligne avant la fin de la page. Ela mai takante. Vous avez?
Ela
mai takante. Chez toi, David, c'est page 74. Ela mai takante. Alors seulement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi cette takana? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, c'est très... Hein, comme tout le monde a dit, bien sûr, on sait très bien, quand on ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comme c'est écrit. Vechata echa bitzaka frok. C'est déjà écrit, déjà dans Daniel. D'accord, Daniel, qu'est-ce qu'il a dit? Daniel, le prophète, il a dit que la faute, on peut racheter par la tzedaka. Très bien. Comment chez Katoua Poskim, comme les décisionnaires ont écrit, l'iten beat kolium, pour chaque jour qu'on aurait dû, chaque jour, enfin, de jeûne Arizal, de donner, donc, bechol beat kolium tenichachouba, erer, chai dolim polish. De donner l'équivalent, d'accord, de chai dolim polish. Alors, c'est quoi chai dolim polish? On va expliquer tout de suite. Veachir Yosif le Fioshro, celui qui est riche devra rajouter selon sa richesse, rouler, etc. Kmoche Katam à Magan Avraham, il rotanit ainsi qu'a écrit le Magan Avraham, Shouchan Arour, les lois du Tanit. C'est quoi exactement aujourd'hui, ça correspond à quoi? Alors, vous prenez la. C'est très simple, d'accord? C'est aujourd'hui, c'est l'équivalent de deux tiers d'un Sela de la Torah. Alors, par exemple, on sait que quand on donne au Kohen, quand on rachète le premier-né, on doit donner 5 slaïm. D'accord ? 5 slaïm. Là, on vient de dire que c'est 2 tiers d'un sela de la Torah. Alors, c'est quelque chose qui change constamment. D'accord ? C'est quelque chose qui change constamment. Je crois qu'on m'a dit une fois que... Non, les 5 pièces qu'on donne. Je crois qu'on m'a dit une fois que c'est l'équivalent de 80 euros, quelque chose comme ça, 80 ou 85. Okay. Non, ça dépend. Le cours, ça dépend du cours de l'argent. Le cours de l'argent, il bouge constamment.
Les 5 ou les 4 pièces ?
Non, les 5.
Cycle d'argent.
D'accord. Oui, c'est cycle d'argent. D'accord, mais il y a un poids. Le Sela, c'est un poids. Bon. Donc, le poids qu'il donne ici, ça, c'est, il a donné en monnaie locale. D'accord, en monnaie locale de l'époque. Il appelle ça Chaik Dolim Polish. Aujourd'hui, on dit que c'est l'équivalent d'environ 4 euros. Environ. D'accord, 4 euros 50. Quand on était en francs, on disait, ça, aujourd'hui, c'est 4 euros 50, à peu près. Environ, selon le cours de l'argent. Donc 4, on va dire, disons, allez, 5 euros, on va arrondir, 5 euros par jeûne qu'on aurait dû jeûner.
Ouais, je vais faire d'un repas.
D'accord, attends. Donc si tu comptes par exemple, déjà, 84 fois 5, ça fait combien?
420.
Ah, c'est déjà juste une fois.
Fois 3.
1260.
Attends, on va arriver là. Bon.
Non, faut que je regarde les...
3840.
Ça va pas dû dire le chiffre, tu vois, parce que maintenant, je vois des gens qui ont fait 1260 en dons.
Non, il a dit, le riche, il rajoute selon sa richesse.
Si on fait plus de 1000 euros, c'est suspect.
Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi la takana? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Il dit, c'est très simple. Il dit, donc, ça c'est l'équivalent. Donc, moi j'ai kata Magan Avraham, Mirotani, ainsi qu'a écrit le Magan Avraham de Rodutani. Très bien. Non, Omikol Makom. Ok, donc tu dis, tu rejettes dans la Tzaka, d'accord, disons. Omikol Makom. Kol Bal Nefesh, je vais dire un peu vite parce qu'on va aller jusqu'à la fin. Kol Bal Nefesh Achafet Kirvat Hashem. toute personne qui veut quand même s'approcher de Dieu, qui dit, attends, c'est-à-dire quoi l'argent? L'argent, c'est les jeûnes, je veux jeûner. Tu m'as dit qu'on ne peut pas jeûner, mais moi je veux jeûner. Alors il dit, donc les Hashiva, les Taken Hashu, les Hashiva et la Shem, les Tshuva Meula Minamufra, c'est lui qui dit, moi je veux faire une Teshuva au top, je veux pas une Teshuva rafistolée.
1200 euros.
D'accord? Moi je veux une Teshuva, je veux jeûner, ça veut dire qu'on peut jeûner. Alors, Yachmir Alatmo, il faut qu'il prenne sur soi, mais encore une fois, comme on a expliqué dans la fois au nom du Rabbi, que ça, c'était seulement à l'époque de Edmour HaZaken. À l'époque du Edmour HaZaken, il va expliquer ici certains jeûnes qu'on peut faire. Et même, aujourd'hui, même ces jeûnes-là, on ne fait plus. Parce qu'aujourd'hui, les générations sont encore plus faibles. Donc, on va voir comment il faisait à l'époque du Edmour HaZaken. À l'époque du Edmour HaZaken, ce qu'on préconisait aux gens, c'est que bien sûr, la majorité, il faut acheter en tzedaka, mais au moins, Yachmir Alatmo, on leur demandait, celui qui voulait faire les choses au top, de prendre la Khumra sur soi. Les Hashlim al Kol Panim, Pa'amachat Kol Yimechayav, de s'efforcer de faire au moins une fois dans sa vie, Mispar Atzomot, Lechol Avant Zavon Mavonot Achamourin. De faire au moins une fois dans sa vie le nombre de jeûnes qu'il faut pour chaque Avera. Par exemple, il s'est énervé. Combien de jeûnes on avait dit pour la colère, vous vous rappelez?
84 fois.
Non, la colère, c'est pas 84. Combien de jeûnes on avait dit pour la colère? La colère, on avait dit 151.
C'est l'idolâtrie, la colère.
151. Alors le gars il s'est énervé 10 fois, d'accord? Le gars il s'est énervé 10 fois, on va dire, tu lui fais un prix de gros, d'accord? Tu lui fais un prix de gros, tu lui dis bon, 151 x 3, ça fait 453, x 5.
Ça fait beaucoup. Hein.
D'accord.
Le gars il s'est énervé 10 fois, c'est tout. Et je lui ai fait un prix, il coûte 3 fois.
160.
Alors, c'est quoi? Alors, il dit comme ça, il dit, normalement, on peut rajouter ça par la tzedaka. Néanmoins, celui qui veut faire à l'époque d'Edmour HaZaken, celui qui voulait faire une teshuva au top, qu'est-ce qu'on lui disait? On lui disait, au moins, efforce-toi de faire au moins une fois le crédit de jeûne qu'il faut faire. Par avéra. Même si t'as fait cette avéra, malheureusement, 1000 fois dans ta vie. Mais essaye au moins une fois dans ta vie de t'arranger, tu as un calepin, tu notes. Même si j'ai fait 10 fois l'avéra, 100 fois, 1000 fois l'avéra, je m'arrange qu'au moins une fois dans ma vie, j'ai fait par exemple les 84 jeûnes qu'il faut, les 151 jeûnes qu'il faut. Une fois dans ma vie.
Qui c'est qui fait ça?
D'accord.
Personne.
Attends. Donc il dit, Chechayavim aleim mita kolpanim, va filou bide shamaim bilvad. Même si ça d'avérote que, ça veut dire oui, c'est d'avérote que bon, on est chayav mita que bide shamaim que par Dieu, mais ça veut dire qu'à l'époque du Batamidesh, on ne les aurait jamais mis à mort. Quand même. Kegon, par exemple. Leotsa, Zera, Levatala. Donc, il reprend encore une fois cet exemple. Pédalet, Tsomot. 84 jeunes. Pas Mahab, Bimechayav. Une fois, en sa vie.
Et il paye le reste?
D'accord. Le reste, il paye.
Donc, il paye deux fois.
Ça, c'est à part le fait qu'il paye.
D'accord. Donc là, il paierait deux fois et ferait une fois.
Non. Ça, c'est à part le fait qu'il va. Parce que quand il paye par Avera qu'il fait. Enfin, selon la Averot qu'il fait.
Ouais.
Une fois par an, etc. Là, il va s'arranger pour le faire une fois dans toute sa vie. Même si entre-temps il y aura des Yom Kippour qui sont passés et qu'il a fauté 10 000 fois la même Avera.
Par Avera.
Voilà. Alors je note dans un calepin, pour ta Avera, je note. Une fois, coche. Une fois, deux fois, trois fois.
84 jeunes de suite.
Ah, très bien. Alors comment il fait? Il dit...
Non, parce que c'est alors, dit,
alors, plusieurs points. Premièrement, Viachol Litrotan, Liyamim Aksarim, Bechoral. D'abord, premièrement, il peut repousser ses jeunes en hiver. Parce qu'en hiver, le jeûne est forcément plus court. Ça, c'est les techniques de l'époque, tu vois, on dit bon, jeûne-le en hiver. Veit aneke certaniot adher machal bechora ferradi, par exemple, la personne, elle va faire 10 jeûnes pendant un hiver. Il s'arrange, il met un jeûne par semaine, tu vois, par exemple. Bon, ça, il arrive à la fin de l'hiver, et 10 semaines d'hiver, il a fait 10 jeûnes. Il note dans le calepin 10 jeûnes. L'année prochaine, encore 10. Ça, il a toute sa vie devant lui. Veigmor, memispar a pedalet somod, betet chanim. Oyoter kifikoro. Bon, donc une personne comme ça, il aurait fini son compte de 84 en 9 ans, à peu près. Ou bien plus, s'il peut jeûner plus. Bah qu'il jeûne plus, s'il peut écouler le crédit, d'accord? C'est son affaire. Ça, c'est un premier conseil. Il peut également manger 3 heures avant le Netzachama. C'est-à-dire, les gens qui se lèvent pour le jeûne, d'accord? Donc il peut se lever 3 heures avant le Netzachama. Netzachama, c'est le moment où le soleil brille, c'est le moment à partir duquel on peut faire la Amida. Donc 3 heures avant cette heure-là, il peut manger. Va falpiken, nershav letanit imitnaken. Et c'est quand même considéré un jeûne, mais à condition qu'il ait fait la condition avant de dormir que de se réveiller le lendemain. C'est valable aujourd'hui, ça aussi.
Ouais.
D'accord? Parce qu'on a le droit de se réveiller le lendemain pour manger.
C'est pas le jeûne de Kadesh.
seulement tous les jeunes, c'est comme ça. Fin la condition. Alors, la condition verbale ou mentale, c'est une autre question, mais fin une condition. Enfin, mettre son réveil, ça s'appelle faire une condition, parce que tu montres que tu as mis ton réveil pour te réveiller, prendre un café, etc. D'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'Admor HaZaken, c'est intéressant comme il vit qu'il est l'Admor HaZaken, parce qu'a priori, la halakha n'est pas comme ça, je crois, là-haut. La halakha n'est pas qu'on a le droit de manger jusqu'à 3 heures avant le Netzachama. Par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, si je prends un exemple aujourd'hui, quand aujourd'hui, le Netzachama, alors, Netzachama, il est à 7h55. D'accord? Le lever du jour, il est à 6h43. Nous, on a l'habitude toujours, on dit pas, on mange qu'à 6h43. 6h43, ça arrive quelques minutes avant. Très bien. Là, par contre, si tu me dis que le Netzachama, il est 7h55, ça veut dire que 4h55. D'où tire ça la Admor HaZaken? Pourquoi, je veux dire, pas c'est
trop tôt.
D'accord? C'est trop tôt. D'où ça sort? Ah, il y a une longue explication. Longue explication du Rabbi, je vais pas rentrer dedans. Parce que bon, il y a un long développement. Longue sikha du Rabbi dans lequel le Rabbi explique ça. Il explique que la Admor HaZaken, il se base par rapport aux jeunes. Et c'est possible que c'est la même chose pour les autres jeunes, mais en tout cas, pour les jeunes de Tshuva, ils se basent sur le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a une machloket là-bas, hein, et bon, il y a un long développement, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Et de ce développement, on comprend que l'Admor HaZaken s'est basé sur le Talmud de Jérusalem, et de là-bas, on comprend que il faut commencer un tiers avant. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, d'accord? En tout cas, ça veut dire 3 heures avant. Quoi qu'il en soit, l'Admor HaZaken ici, il donne des techniques pour jeûner facilement. Du style, bon, tu vas jeûner, mais on va essayer de que ce soit pas trop dur. Alors, à l'époque, ils pouvaient jeûner, mais c'était un peu dur. Il dit, bon, voilà, tu fais 10 par hiver, d'accord? Donc, tu les gardes pour l'hiver. Tu vas manger un peu le matin, comme ça, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu as mangé le matin, donc tu as un petit déjeuner déjà. Donc, quel repas tu vas sauter?
Le
repas du midi. Bah, pas le bout du monde.
Mais quand il attend pour l'hiver, où il fait en plusieurs temps, il peut d'ici là, la personne peut décéder et donc ne pas être en maison.
Ah,
ça,
c'est clair. Ramadan, quoi. Bon, mais il dit selon sa force. Parce que s'il fait plus que ça, après, ça va l'empêcher de faire Torah Mitzvot. Tu comprends, 2 jours de jeûne d'affilée, c'est très fatigant. Par contre, si je fais un par semaine, ça va, je peux supporter.
Il y en a 2 heures.
Non, mais il
et donc, où les tachloum? Maintenant, il continue à me razaquer. Il dit, maintenant, quelqu'un il veut faire encore une meilleure teshuva. Il dit, non, moi, c'est pas 84 que je veux. Même 84 étalé sur 9 ans, je veux plus que ça. Moi, je veux jeûner 252. Pour cette avéra, par exemple. Je veux jeûner 252. Il dit, pas de problème. Tu veux jeûner 252. On a une autre technique pour toi. Tu vas jeûner une fois 84, comme ce qu'on a dit, donc en 9 ans. Et pour le reste, où les tachloum, rechnoubet, ce notre canal, it ané, od, dalet, pami, pedalet, adachar, tatayim, bilvad. Maintenant, pour les 2 fois 84 qui restent, je lui dis, tu vas jeûner encore, 4 fois 84, mais par contre, tu vas jeûner que jusqu'à Khatsot. En hiver, tu prends des hivers aussi, si tu veux. Tu vas jeûner que jusqu'à Khatsot, c'est-à-dire que jusqu'à midi. Donc, ce qui fait que tu as pratiquement pas sauté de repas. Puisque tu as mangé le matin, que tu t'es réveillé. D'accord? Tu n'as pas mangé jusqu'à Khatsot. Tu fais 4 fois comme ça. Parce que, encore une fois, j'ai fait une fois 84. Il me manque encore 2 fois 84. Alors, je ne vais pas faire 2 fois 84. Je vais faire 4 fois 84. Mais au lieu de jeûner un jour de jeûne entier, je jeûne un demi. Et la Mourazak Kennedy dit, pour ça, pour la teshuva, bien qu'alachiquement, normalement, pour les jeunes, comme le jeûne de Gedalia, etc., 2 demi-jeunes, c'est pas considéré un jeûne. Mais pour ça, pour la teshuva, 2 demi-jeunes, c'est considéré comme un jeûne. D'accord? Ça, c'est les conseils que donne l'Admor HaZaken.
Qu'est-ce qui reste? Celui qui mange pas à midi, il est comme s'il avait jeûné, alors.
Ouais, c'est ça.
Alors, aujourd'hui, n'importe qui peut faire 84, même 252, hein.
Non, il faut que je lève avant de
le faire. Oui.
Non, mais tu te
lèves. Non, mais même tu
te lèves pas. Tu te lèves
un bon repas le soir et tu te Et à midi, tu manges,
et moi, j'arrive souvent. Tu manges
à midi, une heure. D'accord?
Ouais, ni boire.
Il dit?
Des
fois, je prends pas. Vechel, Charabonot.
Il faut le faire souvent.
Non, mais attention. Un jeûne, faut pas oublier quelque chose. Un jeûne, c'est pas simplement ne pas manger. Un jeûne, c'est pas simplement ne pas manger. Et aller au boulot et faire comme si de rien n'était. Un jeûne, ça veut dire qu'un jour de jeûne, c'est un jour de teshuva. Donc, psychologiquement, c'est très dur. Bah oui, attention. Le gars, il vient, il est en train de jeûner, il fait les 400 coups.
T'as mieux un migré en France,
c'est quoi? Bien sûr qu'il y a une différence psychologique.
T'as pas mieux un migré tous les matins?
Ça pardonne pas pour ça. Vechen, les charabonnes que tu veux. Donc ça, c'était. Donc pareil pour les autres avérotes. Par exemple, la colère. D'accord? Le gars, il s'est énervé. Il va mettre dans son calepin. Une fois à 151, il découpe ça en hiver, le temps qu'il faut, parce que là, c'était seulement une avéra que j'ai pris.
Oui, il n'y a pas assez de jours, manière.
Voilà. Bon, vous avez bien compris, il n'y a pas assez de jours. J'ai pris la colère et cette avéra, ah, voilà, on a déjà écoulé...
Il s'est énervé une fois, le type, cette année, jeune.
Asher Kol Lev Yodea, Marat Nafsho et Khafet Beitzadkadi, c'est de la même manière, pour toutes les autres Averot, que tout cœur connaît. Ça veut dire quoi tout cœur connaît? Ça veut dire qu'il faut faire confiance à son cœur. Très important. On se dit oui, mais peut-être c'est une mauvaise impression, peut-être que je me dis que j'ai fait une Avera, en vérité, j'ai pas fait, écoute. On va te demander de rendre des comptes à personne, d'accord? Ni à ta femme, ni à tes amis, ni à... tu te connais. Et quand tu quand t'as un sentiment que tu as fait quelque chose de pas bien, c'est que tu as fait quelque chose de pas bien. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Colle lève, Yodéa. Parce que des fois, il y a des nuances. Le Yitzhara va venir et dire, non mais, c'était pas une Avera, c'est... Des fois, il y a des choses que... Ça peut être une Avera, comme ça peut ne pas être une Avera. Quand il y a des choses où c'est pas vraiment une Avera. Tu dis, écoute, colle lève, Yodéa Nafshot. Chaque personne se connaît. Si il se connaît, c'est très bien que... Si t'as un sentiment que t'as fait une Avera, certainement ça veut dire que t'as fait une Avera. Mmh. D'accord. Achen, mispar atzomot, je vais un peu vite parce que je, comme je dis, de toute façon, on leur a bien dit qu'aujourd'hui on ne peut plus ça. Achen, mispar atzomot haotfim al reshtun bet, ukai gavna, shayat sarich leitanot kde la chouche la date amachvirim leitanot mispar atzomot shakochat vechat kifim mispar atzomot shakochat akanal. Mais maintenant, lui, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, donc il a fait 3 fois, par exemple, 84, mais il a dit, moi j'ai fait 10 fois la Vera, donc je vais payer 10 fois 84. Il dit, bon, y a pas de problème, tu payes avec la Tzedaka. If dekula bit Tzedaka, erei, chayk doli polish bat kolyom. Bon. Sechen shar koltaniot, tsarich leitanot, ben, à la Verot, shen bamita. Donc il fait la même chose pour toute la Verot sur laquelle il faut jeûner. Toute la Verot pour laquelle Arizal a dit qu'il faut jeûner, il fait la même chose. Va filo abitum misatase de Horaita ou de Rabbanan. Même s'il a simplement omis de faire une mitzvah positive des Chachamim, comme il a oublié de faire les Tilat Edaim. Et sur ça aussi, là, je sais plus combien, un truc comme 50, 60 jeunes. Allez hop, il a oublié 60 jeunes. Ve Talmud Torah keneged kulam.
Sauf que ça, il va faire faillite.
Ve Talmud Torah keneged kulam. Encore plus si une personne n'a pas étudié. Que fia me forash. Vous avez dans les mots, je vais un peu vite, mais. Voilà. Je suis à la parenthèse, 10 lignes avant la fin de la page. Ça dit Gimel. Allez, messieurs. Donc, Kefia Meforage, Betikunet Shuva Meharizal. Comme c'est expliqué dans le Tikunet Shuva Meharizal, Rovam Niskarem, Misha Fasnim, Vasaret Shuva. Akol Kacher Lakol, il débite Zaka Canal. Donc, tout, il va racheter avec la Zaka. Ilo Metsi, le Tauru Neshe Canal. S'il ne peut pas se faire souffrir, il doit tout racheter par la Zaka. Ça reste d'actualité. D'accord? Que tous les jeûnes que l'Arizal a dit qu'il faut faire, aujourd'hui on doit continuer à les faire. Alors on peut pas les faire en jeûne, on n'a plus la force, mais en Tzedaka on peut le faire et on doit le faire.
Et l'Arizal il a donné quelques exemples, il a pas fait un listing.
On a plusieurs problèmes, d'accord? On a plusieurs problèmes. Le Arizal, si, bien sûr.
Oui,
il y a une liste.
Toutes les fautes.
Il y a un livre qui s'appelle Mishnah Trasidim. C'est lui qui ramène ici. Eh bien ramène tous les jeûnes, c'est pas de problème, tu veux jeûner, je suis l'un des jeunes jusqu'à la fin de ta vie.
Oui, c'est ça.
D'accord. Bon. Alors, il y a deux problèmes.
Bon, le régime, c'est d'accord bon,
mais... Bon. Il suffit de quand tu veux jeûner.
Disons une personne, il a eu la Avera de Zera Levatala qu'on a dit, d'accord? La semence 120, et il a fait, bon, 3 fois, d'accord? Ben bon, ici, il a dit plus que 3 fois. Il a dit, en vérité, pour le faire bien, quand on donne la Tzedaka, c'est pas 3 fois, c'est autant de fois qu'on a fait la Avera. Fois 84. Bon. Tu dis que, parce que la technique que les poskim ont dit que 3 fois équivaut à 1000 fois, c'est seulement pour le jeûne. Mais pour la Tzedaka, il faut donner la Tzedaka autant de fois qu'on a fauté. Fois 84. Pour la colère, 151. Quel exemple on avait donné encore? On avait dit, il a donné juste quelques exemples. D'accord?
Oui, il me semblait que tu avais dit que ça
fait. Il avait dit, quelqu'un qui a bu sans faire exprès du vin, donc qui n'est pas Samienam. D'accord? Ça veut dire du vin.
Pas sanctifié.
Qui n'est, non, c'est-à-dire du vin d'égoïsme. Bien que c'est pas du vin d'Avodazara. Il doit jeûner, combien on a dit? Aïn Gimel Taniot. D'accord? Il doit jeûner, 73 jeûnes. Celui qui a manqué de faire une tefila, il a oublié un jour de faire la tefila, d'accord? 61 jeunes.
Ah, j'ai pas assisté à ce cours, pour chaque avera, il y a le nombre de...
On a donné quelques exemples, des exemples non exhaustifs, d'accord?
Je peux rattraper dessus. Oui, bien sûr.
Bon.
Je peux rattraper là. T'as bien fait venir.
Je fais assez souvent.
Alors, il y a un problème. Il y a un problème qu'on a avec tout ça. Donc, disons qu'il va, bon, d'accord. Disons que la personne... On dit que les chassidines de l'époque, chaque fois qu'ils avaient une avera, ils notaient sur un calepin, et quand ils arrivaient à... Au mois d'Elul, qui va le faire teshuva, il savait exactement sur quoi il devait faire teshuva.
Oh. Mais c'est compté à partir d'accord de quand déjà,
ça? C'est compté à partir du Yom Kippour, par exemple. Voilà, ouais, tu comptes.
T'avais dit le
fais une avéra. Une seconde. Fais une avéra, tu coches. Tac, 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 tac. Il arrive à la fin de l'année, il a tout noté. Bon. Ouais. Disons qu'il a noté, qu'il va faire teshuva, etc. Maintenant, il y a un problème. Disons que, il a l'argent. On va dire qu'il a l'argent, il a de quoi payer.
Rachid, qu'il a l'argent,
d'accord? Disons. Vous avez bien vu que ça monte très très vite. Disons qu'il a l'argent, il y a un problème. c'est que les Chachamim nous ont dit, d'accord, les Chachamim nous ont dit dans la Gemara Ketubot que Ame Vazbet, comme il va dire ici, Ali Vazbet, il est pas Mechomesh. Que celui qui gaspille, même celui qui veut, il dit comme ça. La Tzedaka, normalement, c'est Maaser. Maaser, ça veut dire un dixième. Et là, on dit là-bas, celui qui gaspille, qui ne gaspille pas plus qu'un cinquième, c'est-à-dire plus que 20%. Il dit, attends, là, les 20%, même un milliardaire, il va les dépasser, tes 20%, c'est pas possible. D'accord, il y a un problème, les 20%, il va les dépasser.
Les milliardaires, hein.
Alors quoi?
Des fautes, hein.
Bon, putain, milliardaire, c'est des fautes.
20% d'un milliard, c'est pas
possible. Mais le riche, oui, 20% de...
Alors, comment c'est possible? Non, parce qu'il avait dit en plus, le riche, il avait dit...
C'est toujours les 20%.
Oui, mais le riche, son repas, il ne vaut pas 5 euros.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Il a dit, le riche, il rajoute selon sa richesse. Alors quoi? Il y a un problème. Il va donner plus que 20%. On croyait que c'était sûr de donner plus que 20%. Comment tu fais avec ça? Il dit, c'est très simple. Il fait, hop, il y a les sarmesouyam. Donc je suis à 5 lignes, 6 lignes avant la fin, hein, de la page Tadi Guimel. Hop, j'y allais les sarmesouyam. Bien que ça avait monté une certaine somme. Et une certaine somme, c'est une somme exorbitante. En la rouche. Mais choum, allez, vas-y, les hommes de chômage. Il dit, il faut pas craindre à cause de ce que les chamim ont dit, qu'il faut pas gaspiller. Quoi, il faut pas craindre. Ils ont dit, tu fais comme si ils ont rien dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, des lots, mais crébis, vous, beka et gamna. Ça ne s'appelle pas gaspiller. Les chamim ont dit, celui qui gaspille ne gaspille pas. Là, ça s'appelle pas gaspiller. Pourquoi ça s'appelle pas gaspiller? Mais achar, chéosé, livdot, nafcheux, métanuot, vesigoufim. Puisque, finalement, il fait ça pourquoi? Il fait ça pour racheter son âme. Il dit, au lieu de jeûner, je vais racheter les jeunes par la tzedaka. Donc, il est en train de se racheter. Il dit, c'est très simple. Il dit, vélo gara, hein, logique très simple. Vélo gara, mirfouatagou bouchatraha. Quand une personne tombe malade, je préserve, il doit aller voir des médecins. Ce qu'il fait un calcul, il dit, pour payer les docteurs, je paye que jusqu'à 20% de ma fortune. Il n'y a pas, tant que tu as, tu payes.
Vous avez une mutuelle.
D'accord? Il se met même à crédit pour payer les docteurs. Alors il dit, c'est très simple. Il dit, pour guérir le corps. Ah, t'as pas peur de gaspiller plus que 20%.
Non,
pour
guérir. À Paris.
D'accord? Pour guérir l'âme, vous pouvez avoir peur aussi de gaspiller. Pas seulement ça, le Baal Shem Tov explique, il dit que quand la Mishnah dit là-bas, elle dit que Amevazvez Ali Vazvez est un Mechomesh, que la Takana des sages de Usha, qu'ils ont instauré que celui qui gaspille ne doit pas gaspiller plus qu'un cinquième, c'est seulement pour une personne que pour elle, la Tzedaka, c'est comme du gaspillage. Lui, on lui dit, ah.
Ça veut dire quoi, gaspillage?
C'est-à-dire, il jette l'argent? C'est-à-dire, pour lui, bon, il sent pas que c'est de l'argent qu'il a placé. C'est vrai que c'est de l'argent qu'il a gaspillé. Il dit, bon, on doit le donner, on donne, et c'est tout, allez, hop, ça part dans ça. Mais le Baal Shem Tov dit clairement, il dit, celui qui pour lui, la Tzedaka, c'est une mitzvah, c'est un placement, etc. Il n'a pas cette restriction. Bon, ce qu'on a compris en tout cas, c'est quoi? C'est qu'il faut donner beaucoup, beaucoup de zaka. Dit la demoiselle Zakaen, Ulfi, Shemispar, Atsomot, Amuskarem, et Tikkuné Tshuvah, Rabou, Od Meod. Étant donné que si on suit les Tikkuné Tshuvah du Harizal, qui sont très clairs, parce que le Harizal n'a fait que remplacer, d'accord, les jeunes qui étaient à l'époque de la Gemara, qui eux-mêmes étaient à la place du Corban.
Alors, c'est pourquoi il a compté 84.
Oui, machin, et chaque fois, on avait expliqué dans ce cours. Chaque chose avait une raison. Alors, par exemple, la colère, c'était la même valeur numérique 151. Non, chaque chose a une raison.
D'accord.
Alors, chaque chose. Des fois, c'est Gematria, des fois, c'est... Chaque chose, le Harizal donne un calcul très précis.
D'accord.
Le problème qu'on a, c'est que si on suit ces tikkunim de Tshuva que le Harizal a donné, qui sont très justes, d'accord, mais Rabou, bim, od, mais od. Si on suit le nombre de jeunes que leur a demandé, c'est énorme. En plus, tu rachètes ça en jeunes, d'accord, c'est énorme, c'est extraordinaire.
C'est
Lionel, je crois. Alors, il dit... La reine, c'est pour ça.
Hein. C'est dissuasif, en tous les cas.
On est mignon avec Lionel.
L'avantage que ça pouvait avoir, c'est que c'est dissuasif.
Ah, ça c'est clair. D'accord, la reine, c'est pour ça. Nagou, Arshav, Kol, Acharedim, Ilvar, Hachem. C'est pour ça que tous ceux qui craignent Dieu ont pris l'habitude. T'as vu, tu veux laisser un petit peu de place?
Oui, bien sûr.
C'est pour ça que tous ceux qui craignent Dieu ont pris l'habitude. L'herbot, mais od, bit zaka. C'est pour ça que tous ceux qui craignent Dieu ont pris l'habitude de rajouter et de donner beaucoup, beaucoup de zaka. Sans compter. Pourquoi sans compter?
C'est ouvert là-bas?
Oui.
Ça laisse ouvert? Comme la fenêtre?
Ouais. Non, c'est pas la fenêtre. C'est pas
sauvage. Je sens de l'air qui arrive vers
moi. Non, mais je suis allé faire. Je vois content.
Alors.
Je vois content, toi.
Donc. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour ça que les Haredim, ceux qui craignent Dieu, qui savent qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à faire et qui sont très, très loin du compte, donc ils ont pris l'habitude de donner beaucoup, beaucoup de zaka sans compter. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas jeûner. Mais Hamat et les Shoutador, étant donné que la génération est faible, des Lomatsil et Tsaoré Napsham Kulea, et on sait qu'on ne peut pas se faire souffrir autant, c'est impossible. Comment je suis ma commentaire, Al-Pasou, Kras de Hachem Kulotadou. Comme je vous expliquais ici. Donc, explique le Morazaken. Il dit qu'en vérité, à l'époque du Beth Amikdash, les gens ne donnaient pas autant de zaka qu'aujourd'hui. Les gens n'avaient pas autant de zaka qu'aujourd'hui. Les gens avaient un patrimoine, les gens avaient de l'argent, etc. Ils n'avaient pas autant de zaka qu'aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on voit qu'aujourd'hui les gens, même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et ils donnent, on a l'impression qu'ils sont en train de se saigner. Pourquoi ils donnent tellement de zaka? C'est très simple. Parce que maintenant, on est suite au Arizal, on a compris que normalement on devait jeûner, on peut pas jeûner. Quand l'argent, on peut pas donner cet argent, hein. Personne a tout l'argent qu'il faut, c'est impossible.
Même la caparotte, hein.
Il faut être milliardaire pour avoir cet argent. La caparotte, c'est autre chose.
Caparotte, mais dans le Dakar avant, il n'y avait pas le
Dakar. Caparotte, c'est autre chose. Caparotte, c'est seulement pour réaliser que normalement c'est nous qu'on aurait dû tuer, c'est tout. Et rien d'autre. Les gens y croient, ils sont rachetés avec une poule.
Il n'y a pas une période où ils ont dû dire que c'était 20% de la crème, que les gens.
Oui, on l'a dit. On a dit que pour racheter son âme, il n'y a pas cette limite-là. Racheter son âme. Ah bon. Soigner son âme. Acheter son âme, c'est pas de chez nous.
Ouais.
Pourtant, en hébreu, c'est qu'on dit un livdot nafsho. C'est de racheter son âme. C'est ça, c'est une notion de chez eux, non? Racheter son âme. Avec de l'argent, ils font ça aussi?
Non.
Marché Mamelev dit. Bon.
Pas besoin de savoir.
Pas besoin de savoir. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit. Donc, il explique l'Admor Razaké, il dit, voilà la raison pour laquelle les gens, aujourd'hui, donnent énormément de tzaka. Encore bien au-delà de leurs moyens, bien au-delà de 20%, bien au-delà de ce qu'ils devraient donner. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la tzaka qu'ils donnent est là pour remplacer, comme on a dit, pour remplacer les jeunes.
Tu crois que c'est pour ça qu'ils donnent?
Bien sûr, c'est évident que c'est pour ça. C'est la raison, c'est pour ça qu'ils ont été éduqués comme ça. Il y a un premier qui a commencé.
Ah, tu parles des rabbins alors?
Bien sûr. À l'époque de la Gemara, on ne donnait pas autant de tzaka. Il donne ici un pasouk. Il y a un pasouk qui dit Chas de Hashem kilotamnu. Chas de Hashem kilotamnu, ça veut dire, c'est la chesed d'Akadosh Baruch Hu, kilotamnu. Alors, kilotamnu, littéralement, ça veut dire, que nous ne sommes pas exterminés. Sauf que le problème qu'on a, c'est que, normalement, tamnu en hébreu s'écrit pas comme ça. On dit Chas de Hashem kilotamnu. Quand tamou, comme itamou chataim, tamou, pas tamnou. Prends des chas de Hachem qui le tamnou. Prends l'arche de le nou. Alors, le Mourazakan explique comme ça. Il y a un pirouche qui dit comme ça. Il tamnou, ici, ça vient du mot tamim. Tamim, intégrité. Ça veut dire comme ça. Que qui le tamnou, comme nous ne sommes pas intègres, on sait très bien qu'on est très très loin des tzadikim. Et qu'on sait très bien que, même si on veut faire teshuvah, on pourra jamais faire teshuvah comme on doit le faire, parce qu'avec le compte qu'on a donné, ni en jeûne, ni en argent, on peut faire. C'est pas possible, il y a un problème. Alors, la seule personne sur laquelle on peut compter, c'est Chas de Hachem, sur le chesed d'Akadosh Baruch Hu, que nous, on fait ce qu'on peut, et Akadosh Baruch Hu, il remplacera les cases manquantes.
Ça veut dire quoi,
d'accord, aussi? Ça veut dire donner la tzedaka autant qu'on peut.
Ça veut pas dire jeûner autant qu'on peut?
Non. Aujourd'hui, on jeûne plus. Alors, en vérité, aujourd'hui, on jeûne plus.
C'est un soir, même.
Aujourd'hui, on jeûne plus. Aujourd'hui, les générations sont tellement faibles qu'on jeûne plus. C'est fini, il faut plus jeûner. Si maintenant une personne sent qu'il peut jeûner, peut-être devrait demander à son rab, mais bon, en tout cas, pour un limoud de masse, on peut pas demander aux jeunes de jeûner. Faut pas jeûner. Faut donner la tzedaka. Et si on suit le compte de tzedaka qu'on a donné, on arrive très vite à des sommes énormes. Impossible de payer tout ça.
Surtout quand on doit pas payer plus 1% de ça.
Alors, non, dis non. Très bien. C'est pour ça qu'on dit, faut donner la tzedaka. Qui peut payer tout ça? On peut pas. Alors, oui, qui c'est qui complète?
Pas, justement.
Alors c'est pour ça,
hein.
Le rabbi explique la chose suivante. Le rabbi dit qu'aujourd'hui, c'est évident que l'Admor Hazaken, il a pensé des générations comme nous. D'accord, qu'on a d'Averod, mais d'Averod, c'est impossible de racheter. Que même si maintenant, il s'arrête à 30 ans, il va payer ce qu'il a fait en 30 ans jusqu'à la fin de ses jours, il n'a pas assez quoi payer. C'est pas possible, il y a un problème. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut racheter sa part. On doit donner un maximum de tzaka qu'on peut. Et le reste, on va le racheter en étudiant la halakhot de Teshuvah. Donc en étudiant comme ce qu'on fait maintenant. En étudiant la halakha de la Teshuvah, en étudiant qu'est-ce que c'est la Teshuvah, on est obligé de dire que Kadosh Baruch Hu remplit le manque. Comme ce qu'on avait expliqué, il y a deux cours, on avait expliqué que si Kadosh Baruch Hu, par exemple, dans certains cas, nous a interdit de sonner le shofar pendant Shabbat, parce que les Chachamim m'ont interdit de peur qu'une personne va porter, alors que Minatoran aurait dû le sonner. Donc on a dit, on est obligé de dire, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, s'il a fait que les Chachamim m'ont interdit, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu va remplir ce manque d'une autre manière. C'est obligé, sinon Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous rendre des losers.
Donc une mitzvah positive repousse une mitzvah négative.
Bien sûr, on est d'accord. Bon.
On peut partir du principe.
Avec ça, oui.
Pardon, quand tu dis que tu vas aller étudier justement les halakhot de Teshuvah, ça va te faire prendre conscience qu'il faut que tu arrêtes de le faire.
Bien sûr, d'accord, mais quand même.
Il y a des choses qui ont été.
Tout le monde faute. C'est pas une personne qui ne faute pas.
On change pas sa nature d'être coléreux.
Imagine-toi juste une personne. Bien sûr, on change sa nature.
C'est très difficile de changer ses
caractéristiques. On change sa nature. Tout est dans la tête. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut.
On ne change pas, mais on la contrôle. On la domine.
On fait ce qu'on veut. D'abord, on peut changer. On peut la changer.
La changer aussi.
Bien sûr.
C'est pas sûr.
Quoi, t'es pas sûr? Tu penses comme Freud?
Non, je suis pas sûr. Changer un trait de caractère, c'est difficile.
Freud?
On peut améliorer.
Ah, c'est Freud, ça. Freud dit une personne ne peut pas changer son caractère.
Non, les traits de caractère.
Il dit une personne ne peut pas changer son trait de caractère, c'est comme un animal. La seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut se forcer à ne pas suivre son trait de caractère. D'accord? Dans l'Italien, on explique autre chose. Dans l'Italien, on a dit qu'une personne, avec le temps, il peut acquérir une seconde nature. À tel point qu'il devient une autre personne. On le voit, des gens, ils changent. Sinon, tu mets de côté tout le concept de la teshuva. D'accord? Parce que Freud, il pense que les hommes sont des animaux. Sauf des animaux, c'est des animaux, sauf qu'ils ont des traits de caractère comme des animaux, sauf qu'ils savent, bloquer certains traits de caractère pour ne pas les laisser s'exprimer. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein, c'est ça ce qu'il dit Freud.
Ah bon, t'as étudié Freud, toi, hein,
Pas
Parce que tu lui dis un truc,
non,
il a lu,
Bon.
L'animal, il n'y a pas de notion de moi, de surmoi, de ça.
Oui,
ça.
Voilà. Quoi qu'il en soit. Bon.
Il a pris trois mois.
Donc avec ça, d'accord.
Monsieur, je préfère l'architecture.
Il a pris moi.
Comment il dit? Freud dit, il n'y a pas de subconscient. Comment il dit? Non, comment il dit? Non, qu'est-ce qu'il y a pas le...
Il y a l'équilibrage entre les deux.
Oui, non, mais il y a quelque chose qui tout le monde disait, que lui dit que ça n'existe pas. Il n'y a pas de, d'inconscient, enfin il y a avec l'inconscient et le subconscient.
Le subconscient, mais ça c'est des mots différents avec des indices différents.
Ah non, ça change tout. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, donc maintenant, le point, si on peut faire le point de ces trois chapitres. Le point de ces trois chapitres, d'accord. Premier chapitre, on a expliqué, l'essence de la teshuva c'est quoi? C'est décider de ne plus fauter. Décider sincèrement de ne plus fauter du tout, de ne plus se révolter contre Dieu. Ça c'est chapitre 1. Chapitre 2, chapitre 3, une fois que j'ai fait teshuva, il faut maintenant réparer le dégât qui a été causé. Alors, à l'époque, c'est les korbanot, accompagnés d'un sentiment de teshuva. Les korbanot, après, c'était les jeûnes, d'accord? Après, c'était encore une fois les jeûnes tels qu'ils ont expliqués par le Harizal, d'accord? Alors après, on a dit fois 1, fois 3, fois le nombre de fois qu'on a fauté, bon, les variantes, je compte même plus, quoi. Après, on a dit, il faut rajouter ça par la tzedaka, et là, la tzedaka, c'est fois 5, en euros, d'accord? Bon, on a tout de suite compris que c'est impossible. Donc c'est pour ça, il a dit, c'est pour ça que les gens donnent beaucoup, beaucoup de tzedaka. Sans compter. Pour ça, au moment où on dit, écoute, moi, à Kadosh Baruch Hu, je compte pas combien je donne. D'accord? Et je sais que de toute façon, je donnerai jamais autant que je dois donner. D'accord? Donc je donne jamais autant que je dois donner. Alors bon, chasdeh Hashem kilotamnu, moi je fais ce que je peux, et toi, à Kadosh Baruch Hu, tu feras le reste. D'accord? Ça c'est, avec ça, on a fait un point général sur la teshuva. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est seulement une introduction, tout ça. On va commencer le chapitre 4. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je dis qu'on va rentrer dans le vif du sujet? Parce que jusqu'à présent, d'accord, bon, le chapitre 2, chapitre 3 était relativement simple. Le chapitre 1 était relativement simple aussi. La Gemara Zakai l'a expliqué dans le chapitre 1. On va revenir au chapitre 1, puisque c'est sur ça qu'on va s'arrêter maintenant. Dans jusqu'à la fin de Garet Hatshuva, dans les 12 chapitres, on va revenir sur des points du chapitre 1. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 1? Dans le chapitre 1, on a expliqué que c'est quoi la teshuva, finalement.
Tu l'as déjà d'accord. Fait, excuse-moi, tout le guéret, tout ça, tout ça, déjà fait. C'est pour ça que tu sais comment passer, machin.
Normal.
Ça met autant de temps, que ce qui a été passé là, jusqu'à...
On le fait une fois par an.
Ah, une fois par an, non, parce que j'ai cru comprendre que ça faisait 4 ans ou 4-5 ans que tu faisais ce cours-là pour...
De quoi? Non. Tu sais, guéret teshuva, on l'a jamais fait ici.
Non, mais justement, avant, jusqu'à Gengar, je n'étais pas là, donc c'est pour ça, mais j'ai cru comment, ça faisait 4 ans que vous aviez commencé à...
4 ans, l'écoute à Marine. L'écoute à Marine. Alors, l'Admorazaken, d'accord, donc, on va revenir à ce qu'Admorazaken a expliqué dans le premier chapitre. Qu'est-ce qu'a expliqué l'Admorazaken dans le premier chapitre? Dans le premier chapitre, il a expliqué qu'est-ce que c'est Etzem Hatshuva, l'essence de la teshuva. Les gens pensent que la teshuva c'est les jeunes. Dans le premier chapitre, il a expliqué que c'était clairement une erreur. Que tous les jeunes qu'on a dit, toute la tzedaka qu'on a dit, c'est seulement pour effacer la trace du dégât qu'on a fait. Mais c'est rien à voir avec la teshuva. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Enfin, on l'a répété plusieurs fois, parce qu'il faut bien que ça rentre dans la tête. La teshuva, c'est la décision de ne plus fauter. Très bien. Donc c'est quoi l'essence? On va l'appeler Etzem Hatshuva. C'est quoi l'essence de la teshuva? L'essence de la teshuva, c'est de décider de ne plus jamais manquer de respect à Dieu, de ne plus jamais se révolter contre Dieu, que ce soit dans les mitzvot positives et dans les mitzvot négatives. Très bien. Maintenant, on a un problème. D'accord? C'est que tel que l'Admor HaZaken l'a présenté, on a l'impression que c'est très simple. Le jour au lendemain, je me réveille, je dis, ah, ça y est, j'ai décidé, je recommence plus. Ah, Yom Kippour, Neila, pas qu'il a eu un sentiment. Sauf qu'on sait très bien que l'Admor HaZaken, dans le premier chapitre, il parlait pas d'un sentiment comme ça fictif, ou comme ça, il dit, bon, il faudrait que je sois mieux. D'accord. On parle d'un vrai sentiment. Quand tu ouvres un...
Ouais, là, tu sens... C'est un vrai sentiment, mais...
Attends.
Est-ce qu'il vient, attends, il vient refaire bon.
Des secondes. Rico. Ça va, Gérard. Ah bah, tu vois, on a rempli la table, au prochain.
Tu vois, on aurait dû mettre toute la table.
Bon. Alors, sauf que, comme je disais, bon, c'est bien facile de dire, oui, j'ai décidé, je recommence plus. D'accord. Mais le fait que le gars a pris, il va refauter, c'est une question qu'on a tous posée. D'accord. Le fait que le gars, il va refauter... Alors, bon, peut-être que tu vas me dire, c'est possible que tu vas te défendre. Tu vas te défendre, on va dire, oui.
Il était sincère.
Au moment où je l'ai fait, j'étais sincère. Bon, d'accord. C'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois, mais il faut pas se moquer du monde, non plus. Enfin, personne, il refait... En un an, il a refait 50 fois la même verra, et puis oui, à chaque fois, j'étais sincère, à chaque fois, je suis retombé. Attends, tu es sûr que tu étais sincère? C'est sûr, quand tu as dit que tu as toujours recommencé, peut-être tu l'as fait sous l'emprise du moment. C'est vraiment comme même qui pour, t'es senti enveloppé, t'as dit, ah, il faut prendre des bonnes décisions. Hein, c'est comme le gars, il est venu, il a pris le chèque, il a signé, après il dit, attends, j'ai signé sur quoi, là? Tu fais quoi, là?
Donc, et il a, qu'on l'a présenté, d'accord, bah oui, pareil, il a d'accord. Pris des jours pour se rétracter de cet échouement.
Alors, tel qu'on l'a présenté dans le premier chapitre, c'est très simple. Les gens pensent à Teshuva, c'est les jeunes. En vérité, la Teshuva, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est décider de ne plus fauter. Très bien. Mais cette décision, est-ce qu'on est sûr que vraiment cette décision, c'est une vraie décision? Que je décide vraiment de plus fauter. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, je veux plus fauter. Pas, je m'arrête, c'est pas bien ce que j'ai fait. Non. Ça, c'est pas la Teshuva, ça. Teshuva, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ça, c'est pas la Teshuva, c'est ce qu'il expliquait de Morazaken. Les gens pensent que la Teshuva, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ça, c'est pas une Teshuva. Teshuva, c'est retour. Retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux plus recommencer jusqu'à la fin de mes jours. C'est très dur. C'est une Teshuva qui est pratiquement impossible. C'est une Teshuva qui est pratiquement impossible. Comment je peux faire une Teshuva en me disant je recommencerai? Parce que j'ai fait, c'est pas bien. Plus jamais je recommencerai. Donc vous comprenez que, en vérité, on n'a rien compris à la Teshuva. En vérité, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuva. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuva, d'accord, on va d'abord devoir décortiquer plusieurs notions. Dans le chapitre 4, d'accord, en fait, je vais vous dire ce qu'on va faire. Dans le chapitre suivant, on va d'abord expliquer quel est le lien entre le juif et Dieu, comment ce lien a été abîmé par la faute, d'accord. Et comment, par la Teshuva, on va réparer ce lien-là. Là, vous comprenez que... Et c'est ça qui va nous aider à comprendre, et qui va nous aider à prendre la bonne décision. Parce que tant qu'on n'a pas compris tout ça, la personne n'est pas consciente de la gravité de ce qu'il fait. Encore une fois, puisque la Teshuva, l'essence de la Teshuva, c'est quoi? C'est prendre la décision de ne plus jamais recommencer. De ne plus jamais recommencer, c'est-à-dire que le gars, par exemple, il aurait 50 ans à vivre, hein, à peu près, ben pendant 50 ans, il recommencera plus. Il se le dit vraiment, sincèrement. C'est pas possible, il a pensé vraiment. C'est possible qu'il a pensé vraiment, mais s'il a pensé vraiment, c'est pas possible qu'il fait 50 fois Teshuva sur la même chose en un an. C'est pas possible, il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y a un problème.
50 fois la même erreur.
Le gars, il a 50 fois dans la même année, il fait Teshuva sur la même chose. Il y a un problème. Mm-hmm. Je veux bien comprendre que bon, il était sincère, mais là, il y a un problème. Il faut vraiment savoir ce qu'il était sincère.
Teshuva, c'est toujours pas une semaine à chaque
fois. Bah oui, il faut pas exagérer non plus. Et ça veut dire, la question qu'on se pose, encore une fois, c'est est-ce qu'au moment où on a fait Teshuva, est-ce qu'au moment où il a fait Teshuva, il a réellement pris conscience qu'il n'y allait plus recommencer. Donc, pour réellement prendre conscience, on va devoir faire d'abord un long tour sur la Teshuva. Donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Dans le chapitre 4, on va expliquer le lien qu'il y a entre Dieu et les juifs. Rien à voir avec la Teshuva, rien à voir avec la Averot. Encore une fois, pour qu'une personne comprenne la gravité de ce qu'il a fait, et comment il doit réparer ce qu'il a fait, et comment il doit réparer ad vitam aeternam, et qu'il ne faut plus jamais que ça recommence, il faut d'abord qu'on comprenne quel est le lien qu'il y a entre un juif et Dieu. Ça, c'est le chapitre 4. Ensuite, chapitre 5 et 6, on va expliquer comment un juif, quand il fait une avéra, se détache d'Akadash Baruch Hu. Donc chapitre 4, quel est le lien? Chapitre 5 et 6, comment, quand on fait une avéra, on se détache. On est d'accord? Ensuite, chapitre 7, on va nous donner des techniques pour nous aider à faire une vraie tchouva. Ce sera un chapitre très important. D'accord? Chapitre 8, on va expliquer techniquement comment ça se passe quand je fais tchouva, comment la faute est effacée. C'est-à-dire, une fois qu'on aura expliqué quel est le lien, quel est le détachement, d'accord, et comme les techniques pour nous encourager, on va expliquer comment en faisant teshuva on réussit, d'accord, à effacer le mal qui a été fait. Comment ça se passe techniquement, spirituellement, comment ça se passe. Ça, c'est chapitre 8, d'accord. Ensuite, chapitre 9, chapitre 10, on va expliquer qu'est-ce que c'est la teshuva tata, qu'est-ce que c'est la teshuva ila, quelle est la teshuva d'en bas et teshuva d'en haut. C'est là qu'on va expliquer qu'en vérité la teshuva c'est quelque chose de constant. Chapitre 9, chapitre 10. Et enfin, enfin, chapitre 11, chapitre 12, on va expliquer l'importance de la simcha. L'importance de la simcha quand on fait tshuva. Parce qu'une fois qu'on va réaliser ce qu'on va expliquer, on va prendre des claques. D'accord ? Et c'est là que chapitre 11, il en a dit attention. Tout ça avec la simcha. Sinon, on n'a rien compris. Et chapitre 12, il dira que même si la personne, il a des épreuves, comment, même quand on a des épreuves, on doit réussir à quand même des simcha. Donc là, on a une suite logique.
Bien.
D'accord ? On a une suite logique jusqu'à la fin des 12 chapitres. C'est un peu le roi de Mab, là, qu'on va voir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que là, les trois premiers chapitres, c'est un peu une guise d'introduction. On a expliqué selon le niglé, c'est-à-dire selon le côté halachique. Vous avez remarqué qu'on n'a presque pas touché au sod jusqu'à maintenant. C'était surtout de la halacha. La halacha, des poskim, des questions, gemara, etc. C'est là on a expliqué simplement jusqu'à présent le côté technique. Que le côté technique, c'est quoi la teshuvah ? Teshuvah, c'est décider de ne plus recommencer. Bon, après la teshuvah vont venir les jeûnes, les sacrifices, etc. qui vont être là pour effacer la trace. Très bien. Donc sur le papier, ça a l'air très simple. Dans la pratique, c'est très compliqué. Puis dans la pratique, ça a l'air compliqué. Donc comme on a dit, maintenant on va commencer par le chapitre 4. Dans le chapitre 4, on va expliquer quel est le lien entre un juif et Dieu. Pour expliquer après comment ce lien se détache avec la Vera et comment on peut réparer ce lien. D'accord ? Donc on a besoin de reprendre tout depuis le début. Mais sinon on ne comprend pas. On est d'accord ? Sinon on ne comprend pas. Sinon si on croit directement je fais tes chouvas, non, attends, tu crois que tu fais tes chouvas, nous on croit que la gravité de la Vera, c'est par rapport à ce qu'on nous a expliqué. Non, pas du tout. Pas parce que tu t'es senti plus. La gravité de la Vera, c'est pas parce que tu t'es senti pas bien quand tu l'as fait. Quand on fait une Avera, il y a quelque chose qui se passe.
Oui.
Faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait l'Avera. Donc avant de comprendre ce qui se passe, il faut d'abord avoir le contexte général. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le lien entre le juif et Dieu ? On est d'accord ?
Oui, parce que si t'as pas compris ce lien,
tu peux pas avancer.
Sincèrement dire je fais tes chouvas.
Bien sûr.
On est d'accord. Tout, bon, t'as kiffé un peu, quoi. Mais dans la tête, t'as pas fait le... Quelqu'un qui sait pas ça, dans sa tête, quand il fait une Avera, il s'est fait plaisir, mais quelque part, il a pas l'impression
d'avoir... Les gens... Non.
Bah, si, souvent, ça
quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui machin...
D'accord.
Qui...
Bon, j'ai laissé aller. J'ai laissé aller. Toi, par exemple, quelqu'un qui était coléreux, il va faire ses choix. Sur quoi il va faire coléreux? Il va dire, ah, c'est pas bien, je me suis laissé aller.
C'est vrai. Et alors...
D'accord. Ça veut dire qu'il va analyser la Avera seulement sur le plan humain. C'est pas bien, je me suis laissé aller. Ça n'a rien à voir avec ça.
En même temps, et même tu peux trouver médicalement des bonnes raisons.
D'accord. La teshuva, ça n'a rien à voir avec ça. On nous aide à faire teshuva. Là maintenant, on va comprendre pas qu'est-ce qui s'est passé sur le plan humain. Justement, sur le plan humain, finalement, c'est pas toujours très grave. D'accord. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé sur le plan spirituel.
C'est tout seul.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel ? Quel est le lien entre un juif et Dieu ? Qu'est-ce qui se passe quand je fais une avéra ? Alors, on va pas passer toute l'avéra en revue. On peut pas passer toute la vérité en revue. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'expliquer de manière générale qu'est-ce qui se passe, quel est le lien entre un juif et Dieu, comment ce lien peut se détacher, et comment on peut réparer ce lien. On est d'accord ?
Ouais.
Bon, alors on commence maintenant. Chapitre 4.
Ouais.
Quelle heure il est ? Alors, on a un programme, là, pour quelques mois.
Faut d'avoir terminé avant qu'il pour prochain, quoi.
Oui.
Faire tes choix.
Oula, donc pour ça c'est très important de s'efforcer de ne pas rater aucun cours. Voilà, je vous le dis, parce qu'il y a une suite. D'accord, bien sûr qu'on peut, je m'efforce toujours d'essayer de faire rattraper, de répéter le résumé, mais il y a quand même une suite. Et quand on rate un épisode, c'est pas facile après à rattraper.
Il y a toujours le Nokia. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais, faut toujours rattraper.
C'est vrai que c'est pas bien, tu vois.
Pareil.
Quel rapport?
J'ai appris que c'est pas bien de fumer en Shoshana.
Ouais.
C'est la seule fête où c'est impermis de fumer, mais c'est pas bien.
Je savais pas, donc je peux pas faire tes choubas là-dessus.
Non, c'est écrit que même ceux qui peuvent pas se retenir, ils fument en cachette.
Ah voilà.
Parce que le fait de fumer, c'est un signe un petit peu de détente. Et en Shoshana, c'est pas un moment de détente. celui qui va aller se cacher dans une chambre ou dans un trou pour aller fumer, bon, c'est pas un moment de détente. C'est un moment dans lequel il a pas le choix, il fume.
Oui, mais en même temps, les gens. La Roche-Nay, il mange
oui,
bien,
oui,
machin...
Oui,
oui, oui, c'est... Oui, ça aussi, c'est...
D'accord.
C'est
détente, hein. Oui, mais c'est une Tzoudat mitzvah.
Pas la même chose.
Pas la même chose.
Exactement. Ne te justifie pas, il y a...
Ouais.
La cigarette, c'est pas une cigarette de mitzvah.
Et les gens qui ouvrent les fenêtres dans la synagogue parce qu'ils ont trop chaud pour être à l'aise, c'est pareil, ils se sentent détendre.
Bon, on y va. Oula, cependant, à nous là-bas, on avait froid.
Les gens qui ont froid, en plus.
On a dû la faire éteindre.
Ah, j'ai mis la clim pour là-bas.
Ah ouais, mais c'est là-bas, elle marche bien là-bas.
Non, elle l'avait pas ici.
Ici, elle marche pas bien encore. Mais là-bas, elle marche très bien. Ah, là-bas, elle marche bien.
C'est pas le même entrepreneur.
Oulam, cependant, Kolanal, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, dans le chapitre 2, chapitre 3, à tous les jeunes, les techniques, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 100, fois 1000. Ça, comme on l'a expliqué, comme je viens de l'expliquer à l'oral, ou l'igmar akapara au miro kanefesh l'Hashem. C'est seulement post-teshuva. Une fois que j'ai déjà fait teshuva, pour effacer la trace. Pour pas que, bon, parce que ça me dérange que j'ai vexé Dieu, entre guillemets. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a expliqué dans le premier chapitre? C'est comme le hola. C'est un bouquet de fleurs après que j'ai déjà fait teshuva. Mais, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 1? Omnam. Atralat mitzvah teshuva veikara. Le début de la mitzvah de la teshuva. Et c'est pas seulement le début, c'est l'essentiel de la teshuva. C'est-à-dire que vous avez vu qu'on a passé du chapitre 2 au chapitre 3. On peut se perdre dans les détails post-teshuva. Alors c'est une erreur. C'est une erreur. C'est les détails post-teshuva qui sont même pas obligatoires à l'pi halakha. C'est comme un hola, c'est-à-dire celui que ça le dérange, qui dit quand même, Dieu va m'en parler, mais j'ai quand même vexé Dieu, il dit bon, alors ok, tu vas mener des bouquets de fleurs. Mais c'est les détails, ça. Faut pas que les détails prennent l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de la teshuva? Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi? C'est la chouv ad Hashem. C'est de revenir jusqu'à Dieu, behemet ou velev shalem. Behemet ou velev shalem, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec vérité et avec un cœur parfait.
Entier.
Un cœur entier.
Tamim.
D'accord? Pas qu'il fasse teshuva, pas qu'il fasse teshuva, et qu'après il va se mettre à refouter encore une fois, après il fait teshuva, il refoute encore une fois. Comment a dit la Gemara Brachot? La Gemara Brachot a dit, Rechaim, Mleim, Charatot. Les Rechaim, ils sont constamment en train de regretter. Ah, j'aurais fait teshuva? Mais non, pas du tout, il fait pas teshuva. Parce qu'en réalité, il fait jamais teshuva. Bon, il regrette un petit peu, mais il recommence. Donc c'est pas ça teshuva.
Il faut devenir, d'accord?
Donc c'est pas cette échelle. Non, rien à voir. D'accord, donc c'est pas
cette échelle. Non, mais comme le lieu de serré, il arrive à chaque fois, il revient à chaque fois.
Non. C'est chouva complète, c'est une décision sincère de ne plus recommencer. Alors c'est quoi cette décision sincère de ne plus recommencer? Pourtant, tu vois, il te dit, c'est la Gemara dit, les Rechaim, ils n'arrêtent pas de regretter. Ah, s'ils regrettent, très bien, ils ont fait tes chouva. Non. On les appelle pourtant des Rechaim. Pourquoi on les appelle des Rechaim? Parce qu'ils n'ont pas fait de chouva. C'est pas ça une des chouva.
C'est un qui regrette pas.
Celui qui regrette, il a pas fait quelque chose un peu mieux que celui qui regrette même pas.
Si elle peut te rassurer, oui, il a fait quelque chose. Bon, il a répondu.
Non,
si par exemple,
il se met en colère, il dit, ouais, j'aurais jamais dû me mettre en colère tout ça.
Ouais, tu diras ça.
Et alors que celui qui se met en colère, il s'en fiche.
C'est pas teshuva. C'est pas teshuva.
C'est pas
teshuva. Celui qui s'est mis en colère et qui dit, c'est pas bien, je me suis mis en colère, c'est pas ça teshuva. Teshuva, c'est, je me suis mis en colère, j'ai manqué de respect à Dieu, il faut plus que je manque de respect à Dieu. Et plus que je fasse aucune erreur.
Ah, je manquerai plus.
D'accord, je manquerai plus.
Je m'engage à ne plus.
Oui, mais avant de demander pardon, tu regrettes.
Quoi?
Non, mais c'est des idolâtries. Tu regrettes avant de demander pardon.
Avant que tu demandes pardon. C'est comme il y en a une fois, il m'a dit, je regarde les femmes, c'est humain.
De t'engager?
Ouais. Ma nature. C'est humain. Dieu nous a donné une tête pour ça, pour se maîtriser.
Non.
Ah oui, on est. Sinon...
Non, mais une maîtresse, c'est pas le problème.
Alors, on y va. Pourquoi tu dis?
Ils sont fichés.
Ils sont avec toi, c'est m'énerve tout le temps.
Voilà. Tu vois, le gars... Non,
c'est pas la colère.
Ça fait pas longtemps que les séparés...
C'est la colère, ça m'intéresse. Parce que je suis...
Quoi?
Non, mais c'est rapidement...
Bon, on va en parler. D'accord. Alors.
Et pourtant,
parlons-en.
Tu vois, il y a plus de gêne pour la colère que pour ouais. Le zéar en 84 et 151.
C'est moins grave.
C'est l'idolâtrie directe.
C'est plus rare.
Une des techniques.
Mais il a dit que l'autre c'était des trois.
Une des techniques pour ne pas.
C'est un des trois. C'était un peu des trois. L'autre c'est vraiment
un peu des trois. Une des techniques. Non, c'est pas vraiment
une idolâtrie. Mais non.
C'est comme colère.
Arrête, c'est pas vraiment.
C'est pas idolâtrie.
Non. Comme si, quelque chose. Quoi la quoi est-ce qui loue au vaid à votre hasard?
Non, mais là ça prouve que c'est pire que le meurtre et tout.
Bah oui.
Bon.
Ce que tu fais 150.
Alors, une des techniques qui est expliquée. On a déjà parlé un petit peu. Bon, de toute façon, on en parlera après dans les. Ça c'est dans les Guérettes à Kodesh. Une des techniques qu'on donne pour la colère, c'est de se rappeler constamment que tout ce qui nous vient nous vient d'un Kadosh Baroukh Hou. Certains trucs qui t'arrivent, d'accord? Voilà, du style un gars, sa femme elle l'a énervé ou son fils a fait un truc. Y a ta. C'est Dieu qui l'a amené là. Alors, je dis pas que ça marche.
D'accord. Même si l'entrepreneur
ça calme net.
Ça dépend du niveau de.
Mais je peux vous dire que plusieurs fois ça m'a calmé. Ça calme. Ça bon, Dieu qui envoie.
C'est trop facile. Ça.
D'accord. Et c'est finalement quand on s'énerve. C'est pas très facile. Essaye, tu verras, c'est très très dur.
On va se mettre une base.
C'est très très dur. C'est très très dur. C'est très très dur, mais c'est une technique.
C'est trop dur.
C'est un peu.
il y a une fois, j'ai entendu du Rav Shmuel Lou, il a raconté une fois. Il a été sincère. Très très dur. Il a été le Rav Shmuel Lou. Un Rav en Angleterre. Il a raconté que quand il était jeune marié, une fois, il est rentré en Yéhidout, en entrevue privée chez le Rabbi. Une fois, il est rentré en entrevue privée chez le Rabbi et il a dit au Rabbi qu'il avait un problème. Le problème qu'il avait, c'est que des fois, il se contrôlait plus et des fois, quand ses enfants l'énervaient, il les frappait. Mais il frappait de manière... il n'arrivait pas à se contrôler. D'accord ? Il n'arrivait pas à se contrôler. Donc, il en a parlé au Rabbi. Il a raconté. Et le Rabbi lui a dit la chose suivante. Il a dit, avant de frapper ton enfant, tu dois te rappeler que cet enfant est un fils unique d'Akadosh Baruch Hu. Pas ton fils unique. Est un fils unique d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une ségoula pour... Bon, disons que tu veux éduquer le fils unique d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, éduque-le, mais attention. Alors, c'est très très dur.
C'est ta femme.
Il arrive dans la prise.
J'ai
envie de frapper plus, c'est bizarre, parce que le fils unique, ça...
C'est des techniques, tout ça. D'accord. Mais ça, on en parlera plus longuement, maître attaché. J'ai pas dit qu'il ne faut pas corriger.
Non,
il faut
jamais faire sous la colère.
Mais pas
sous la colère,
c'est très rare qu'un coup... Bon, tu n'as pas encore d'enfant, mais c'est très rare qu'un coup serve à quelque chose. Voilà, je veux dire, je dis pas que je n'ai jamais donné, mais c'est très rare que ça sert à quelque chose. C'est très rare. Hein? Est-ce qu'il faut, pas? Bon, des fois, c'est-à-dire, ce que tu gagnes avec le coup, c'est que t'as un effet de, ça arrête net. Mais bon, c'est pas un effet durable, ça c'est clair. Celui qui croit que c'est un effet durable, c'est pas un effet durable. Des fois, il y a besoin. Il faut arrêter l'enfant et...
Bon. Oui.
Surtout que la plupart du temps, quand quelqu'un tente un enfant, c'est pas pour l'éduquer spécialement, c'est parce qu'il a énervé,
voilà.
Et il le donne avec sous les coups de l'énervement. Tu verras que si tu as un enfant et tu te dis, je vais pas te taper tout de suite, je vais taper dans une heure, tu verras que tu le fais pas.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce que dans une heure, t'es plus énervé. Donc c'est pas pour l'éduquer spécialement, c'est parce que t'es énervé.
Il y a un CDR spécial pour retarder justement tout ça que je disais.
Bon.
Donc,
tu dis la Gemara Zaken. Donc ce qu'on a compris maintenant, c'est que, en vérité, ce qu'on a expliqué dans le premier chapitre, d'accord. Ça nous avait l'air simple quand on a analysé le côté l'angle halakhique. D'accord. Oui. Teshuvah, je décide, je recommence plus, c'est fini, plus jamais, chas v'shalom, etc. Et quand on commence à rentrer dans les détails et qu'on se demande est-ce que c'est behemet ou velev shalem, est-ce que c'est vraiment avec vérité qu'on a dit ça, est-ce que c'est vraiment de manière intègre. Voilà, maintenant Yom Kippour est passé. Est-ce que les choses ont réellement changé? Si les choses n'ont pas réellement changé, il y a un problème. D'accord. Alors, on a l'obligation, d'accord, pour comprendre ça, on doit d'abord bien comprendre Be'achavat Abiyur, d'accord. Be'achavat Abiyur, ça veut dire en élargissant l'explication. Dans le mot Biyur, Biyur en hébreu vient également du mot Be'er. Be'er, c'est un puits. Et c'est quoi un puits? Un puits, des fois, c'est pas comme ça, on creuse, on trouve un puits. Il faut chercher.
Biyur-Hamed,
d'accord? En BR, avec un Aleph.
C'est pas la même racine.
C'est qu'il y a une...
Il y a un lien.
BR, d'accord? Non, mais c'est vrai que le Aleph et le Yin, des fois, ils peuvent s'interchanger.
Ah.
Alors, voilà. C'est comme une source, quand on recherche une source. D'accord? C'est pas parce que j'ai creusé que je vais trouver. C'est pas parce que j'ai creusé que je vais trouver une source. On peut creuser, c'est la fois qu'on trouve une source. C'est la même chose ici. Be'achavat Abiyur. On va devoir expliquer longuement parce qu'il faut que ça rentre, ça va prendre du temps avant de rentrer. D'accord? Donc on va expliquer longuement. Qu'est-ce qu'on va expliquer d'abord? Le premier point, comme on a dit, qu'on va expliquer, c'est quelle est l'essence du lien qu'il y a entre un juif et Dieu. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Quel est le lien? Comment quand je fais une avéra, je l'enlève? Et comment je peux réparer ça? Bon. On va faire un peu de Zohar. Be'agdi, Mashekatouv, Zohar à Kadosh. On va juste lire quelques lignes, donc on va s'arrêter. Be'agdi, Mashekatouv, on va poser trois questions aujourd'hui. Be'agdi, Mashekatouv, Zohar à Kadosh, Be'viur, Milat, Shuva, Aldere, Hassad. Le Zohar explique la chose suivante. Le Zohar, il explique, en ce qui concerne la Teshuvah, Aldere, Hassad, selon le Sod. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah selon le Sod? La Teshuvah, pour comprendre ce que c'est la Teshuvah, il faut découper le mot Teshuvah en deux. Ça, c'est ce que le Zohar dit. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit Teshuvah. D'accord? C'est Tashuv, He. Le He retourne. Bah, ça m'avançait beaucoup, ça. Donc, He, il a A.
et tata, tchouva tata, et ila, tchouva ila. Donc, c'est pas seulement ça, il n'y a pas un seul et, il y a deux et. Il y a le et d'en bas, la teshuva d'en bas, le et d'en haut, la teshuva d'en haut. Ça, c'est les mots du Zohar. D'accord? Ça, c'est les mots du Zohar. Zohar dit, voilà, tu veux savoir c'est quoi teshuva? Teshuva, c'est le et qui retourne. Et il y a le et d'en bas qui retourne, ça, c'est teshuva d'en bas, et d'en haut qui retourne, c'est la teshuva d'en haut. C'est quoi? De quoi il parle, le Zohar? Vegan. Il faut aussi comprendre. On va juste poser trois questions, on va s'arrêter ici. Mashikatu bezohar akadosh bikset mekomot. Là, il va nous déstabiliser complètement. Ce qui est écrit dans le Zohar, dans plusieurs endroits. She'en tshuva moelet lefogam brito ou motizera levatala. Dans le Zohar, c'est écrit dans plusieurs endroits que celui qui a eu un problème avec le brit, d'accord? Ça veut dire celui qui a, encore une fois, qu'on l'a dit, des pertes volontaires. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit, en tshuva moelet, cette personne-là, il peut jamais faire teshuva.
Et pourquoi on dit que le...
Deux secondes.
C'est pas le moment, on a presque fini.
Après là, c'est une chatilute, non?
Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman n'a jamais dit que ça se la pardonne, la verra. Vraiment, encore une fois, c'est l'erreur que j'en fais. Tikkun HaKlali, c'est une fois que la personne a déjà fait teshuva et qui veut à la place du korban, alors là, Rabbi Nachman dit à la place du korban, il y a certains télim qu'on va dire.
Oui, mais Tikkun HaKlali, c'est pas...
Et des gens, ils pensent toute l'année, ils font les 400 coups, ils viennent à Ouman, une fois par an, et après c'est bon. C'est ça, on appelle ça un tikkun. C'est même pas logique. Quand on réfléchit, c'est pas logique, c'est pas possible. C'est quoi le tikkun avec la liste? C'est quelques teilim avec des iratons?
Il y a 10 teilim.
Quoi, 10 teilim, iratons, ça y est, c'est fini? Ça y est, on l'a pardonné?
Non, mais il faut le faire avec...
Sur la tombe.
Excuse-moi, celui qui croit à ça...
Arrête, si tu te perds des
teilim... Non, encore une fois.
Non, mais il faut qu'il fasse des teshuvah aussi.
Ah, voilà. Voilà. C'est ça ce qu'on a expliqué. C'est que faire teshuvah, c'est très très dur.
Oui, mais
ça laisse pas
de trace.
Ça c'est comme le sacrifice. C'est comme celui qui amène le sacrifice avant d'avoir fait teshuva. Ça sert à rien.
Tu viens de dire que c'est pas possible de faire teshuva.
Ah. Justement. On continue. Première question, d'accord. Donc, vous avez bien compris, première question. On s'est lancé dans une ligne droite. On aimerait comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva, on va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le lien entre un juif et Dieu. Le Zohar nous dit que teshuva, c'est le hé qui retourne. Le hé d'en haut, le hé d'en bas. Donc apparemment, il y a déjà des complications. Il y a déjà deux directions, en haut, en bas. De quoi on parle? Deuxième question. Le Zohar dit dans plusieurs endroits que celui qui a fait cet avéra qu'on vient de dire ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la gravité de cet avéra, c'est qu'elle contient un petit peu des trois avérotes. C'est pour ça que, dans cet avéra particulièrement, le Zohar dit que on peut pas faire teshuva. Quelqu'un qui a fait un meurtre, peut faire teshuva. Cet avéra-là, le Zohar dit, peut pas faire teshuva. Mais où d'avoir ta moua méot? C'est très étonnant ce que le Zohar dit. Parce qu'on a un principe, she'en l'chadavar omad ifna teshuva, qu'il n'y a rien qui tient devant la teshuva. Va filo avodazara vikilou yarayot. Et même si une personne a fait les trois avérotes combinées, il a tué quelqu'un, il a fait l'adultère, et l'idolâtrie. Il a fait les trois avérotes. Il peut faire teshuva, mais c'est ce qu'il peut faire teshuva. Selon le Zohar, il peut. Tout d'un coup, cet avéra-là, t'as fait les trois combinées, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Pourtant, ça ressemble tout simplement à ça. Pourquoi tu peux pas? Pirej Bereshit Rochma. Alors dans Reshit Rochma, c'est un livre très important. C'est un livre très important qui parle sur... il est découpé en portes, il y a plusieurs portes, d'accord? Et une des... à partir de la porte 17, c'est la porte Shar Akdusha, la porte qui parle de la Kedusha. C'est ce que les Khatanim étudient avant le mariage. En orthodoxe, ils étudient ça avant le mariage, la porte 17, la porte 18, la porte 19. Elle explique l'importance, les relations, etc., comment les kavanot qu'on doit avoir, et comment c'est un moment très important. Il explique beaucoup de choses de la Kedusha. Et là-bas, il explique comme ça. Quand Reshit Rochma, c'est un Rishon. Un Rishon, ça veut dire qu'il date... Bon, c'est un Sefer très très important.
Qui c'est qui l'a écrit, Reshit Rochma?
J'ai plus le nom en tête. On l'appelle le Reshit Rochma.
Oui,
il est traduit, je crois qu'il est traduit en français. On pirej ve Reshit Rochma, chez Kavanat HaZohar, chez En Moelet Tshuva Tata, Kim Tshuva Ila. Dans Reshit Rochma, il dit que quand on dit que la Teshuva, qu'une personne qui a fait cette avéra ne peut jamais avoir le Teshuva, ça veut dire que seulement la Teshuva d'en bas ne marche pas. Mais la teshuva d'en haut, elle marche. Là, on revient à la première question. C'est quoi le hé d'en haut, c'est quoi le hé d'en bas? C'est quoi la teshuva tata? C'est quoi la teshuva ila? Surtout qu'on voit que, qui c'est qui fait ce style d'avérot? C'est pas les tzadikim. D'accord? C'est des gens du peuple qui font ce style d'avérot. Et ces gens-là, tu leur dis quoi? Tu leur dis, la teshuva d'en bas, ça marche pas, il faut la teshuva d'en haut. Oui, mais la teshuva d'en haut, ils n'ont pas l'affaire, c'est les tzadikim. Alors, on tourne en rond. On
se moque de qui?
Ah oui. Ce qu'on expliquera après la teshuva ila, on a l'impression que c'est pour les tzadikim. Teshuva Ila, c'est concerné Tzadikim, je veux bien. D'accord, mais là, le problème, c'est que Teshuva Ila, on est obligé de passer par là si on veut faire Teshuva sur cet Avera. On est d'accord. Et cet Avera là, c'est concerné pas les Tzadikim, donc il y a un problème. Ça, c'est un deuxième point. Donc, c'est un deuxième point, mais qui continue avec le premier point. C'est qu'apparemment, il y a deux directions. Il y a le hé d'en haut, le hé d'en bas. Et qu'apparemment, on doit comprendre c'est quoi ces deux, parce qu'il y a certaines avérotes qui peuvent se faire pardonner que par la méthode de Shuvaïla. C'est ce que le Zohar a dit. Troisième question, on va s'arrêter avec ça. Iné. Léavine me'at misère, pour comprendre ça. Tsarir l'Avdim, il faut encore poser une troisième question. Ce qui est expliqué dans le texte et dans les Chachamim, on voit beaucoup ça chez les Chachamim, Inyan karet mitabi de shamaim. Beaucoup d'endroits, on parle de karet. Karet, c'est la mise en quarantaine. Et mitabi de shamaim, une personne que Dieu dit sur cette personne-là, il doit être mise à mort bide shamaim. Par exemple, quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle, si il avait été prévenu par un bedin, il aurait été mis à mort. Par exemple, il a profané le Shabbat. D'accord? Si on l'a prévenu trois fois devant Badin, etc., il sera mis à mort. Maintenant, lui, il l'a fait, mais il s'est arrangé pour que personne ne le voit. Mais
elle n'est pas sur le public.
Volontaire. Cette personne-là, elle a mitabi de shamaim. Très bien. Normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Shavar avera shraivim à la karet. Si cette personne a fait une avera sur laquelle on est chayav karet, par exemple, il a mangé du chametz à Pessah, que ça, même le Badin ne peut rien faire. Ayamet mamash konem chamishim shana. Cette personne-là mourrait vraiment avant 50 ans. D'accord? Mais mitabi de shamaim, et même quand c'est un cas de mitabi de shamaim, voilà, par exemple, il s'est pas fait attraper quand il a fait l'avera, il a transgressé le Shabbat, volontaire, d'accord? Met mamash kadosh shishana, il mourrait vraiment avant 60 ans. Que Hanania ben Azor, un avis birmiya. Hanania ben Azor, c'est un prophète qui a fait une fausse prophétie. Et il y a Irmiya qui l'a remis en place, le prophète Jérémie, qui lui a dit, comme tu as dit une fausse prophétie, tu vas mourir. Mitabi de shamaim. Et il est mort dans l'année. D'accord. Alors, là, comment... D'accord. Hanania ben Azor.
Mais il a fait exprès de dire une fausse prophétie.
C'est dans Jérémie, tu cherches dans Jérémie. D'accord. Donc, il a été mis à mort. Alors, comment ça se fait qu'il a été mis... Comment ça se fait, qu'il est mort, comme ça, d'une mort subite, dans l'année, et pas au bout de 50 à 60 ans? Il dit, Velif Amim, Gabe Mitabi de shamaim, Nifraim l'altar. Parce que des fois, même quand c'est une mort qui doit venir du ciel, d'accord, on n'a pas dit qu'il faut attendre 60 ans. Des fois, c'est avant 60 ans. Comme on a vu avec Er et Onan. D'accord? Er et Onan, qui ont fait cette fameuse avéra, qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont morts très jeunes. 25, d'accord? 20, 25 ans. Pourquoi ils sont morts tellement jeunes? Parce que, des fois, selon le niveau de gravité, Kadosh Baruch Hu peut décider de ne pas attendre 60 ans. Bon. Alors, c'est quoi la question? Vare nimtseu becholdor. Pourtant, on voit dans chaque génération, kama vekama, plusieurs personnes, des gens, qu'on sait, qui sont chayve kritot ou mitot, qui sont chayav plusieurs fois, karet, mita, des gens qui ont transgressé tout ce que tu veux. D'accord? Alors bon, que tu me dis tu peux faire tes chouvas, hein, tu me dis à la Loubavitch, je peux faire tes chouvas, ce que tu veux, je veux bien accepter. Mais si la Torah dit qu'il doit mourir avant 50 ou 60 ans, bah, il doit mourir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ces gens-là, Veirihu, Yemem, Mushnotem, ils ont vécu longtemps, Baneimim. Et c'est pas seulement qu'ils ont vécu longtemps, c'est qu'ils ont vécu des bonnes années. Ils ont vécu bien, pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, oui, ils ont vécu dans la pauvreté, et Agmara Brachot, elle dit que le pauvre est considéré comme un mort. Ah, d'accord. Non, c'est des gens qui sont riches. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de les juger. On n'est pas en train de dire que c'est des réchaïm, il faut leur parler. Bon, on ne va pas les juger. Nous, on a un problème. C'est que la Gemara a dit 50 ans, 60 ans maximum. Et que quand c'est très grave, des fois c'est même avant. C'est 25, 30 ans. Mais 50 ans, 60 ans maximum. Pourtant, on connaît des gens qui sont frères de carrette. Et dans chaque génération, il y en a. Et pourtant, ils ne meurent pas. D'accord? Alors, comment ça se fait? Il y a un problème dans le système.
On pourrait prouver.
D'accord? Non. D'abord, prouver, il y a un système ici. Encore une fois, je suis pas en train de dire comment moi je dois le voir. Ça, c'est pas mes affaires. Est-ce que moi je dois le voir avec un mauvais œil ou un bon œil? Ça, c'est pas, bien sûr que je dois le voir avec un bon œil. Moi, c'est une question technique que je pose. Pourquoi il meurt pas?
Parce que tu sais qu'il meurt, c'est qu'il a fait
sa réponse anticonique. Ah non, donc, il n'y a pas de route.
Au contraire, c'est ce
qu'il Hanania ben Azor, d'accord? C'est un prophète, c'est fait des tas de choses. Mais il a fait une avéra, pac, c'est fini.
On a la réponse dans la Gemara, dans Brachot, Vavamoudbes.
Oui. C'est quand même... Elle dit que celui qui fait une avéra et qui trouve pas. Celui qui a des épreuves et qui sait pas pourquoi il a des épreuves, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Elle dit celui qui a des épreuves qui viennent sur lui et qui sait pas et qui sait pas pourquoi. Il doit chercher dans ses actions. Très bien. Encore une fois.
Non, c'est pour ça. Moi, je suis ravi de vous demander.
pourquoi est-ce qu'il y a des oui, des sadiques oui, oui. des sadiques oui, oui. les épreuves, pourquoi il y a des réchaïm qui tout va bien pour eux.
Ça c'est pas la question.
Il répond, il dit parce que
non, mais ça c'est pas la question qu'on est en train de poser ici. La question qu'on est en train de poser ici, c'est pas pourquoi les sadiques souffrent et les réchaïm vivent bien. Non. Ça c'est pas nos affaires, c'est les affaires de Dieu. Ça c'est les affaires de Dieu. Nous on a une simple question, on a une question technique. D'accord? Dieu a dit que celui qui a fait Talavera de manière préméditée, d'accord, il meurt avant 50 ou avant 60 ans, selon la Averotte. Il y a plusieurs Averotte comme ça. Or, ça ne se passe pas comme ça.
Dieu les moins révélés aujourd'hui. Donc,
d'accord. Donc il y a un problème.
Si fils, il fait une connerie, tu lui mets une base.
Attends. Encore une fois. Encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que la question qu'on est en train de poser ici, c'est pas pourquoi il meurt pas. Tu vois, il dit, hey, t'aurais dû mourir. Non. C'est pas que je le regarde du mauvais œil. Ouais, Shalom. On nous a jamais éduqués. On nous a jamais éduqués comme ça dans la Chassidoute. C'est un simple constat qu'on pose. Mais qui est lié, encore une fois, aux deux premières questions. C'est que, de là, on comprend qu'on a mal compris tout le concept de teshuvah, de séparation. Parce qu'on voit bien que, il y a des règles que la Torah a mises, et pourtant, ces règles ne sont pas mises en pratique.
On parle pas des mêmes personnes.
D'accord. Non. La Torah a donné des règles.
La loi n'est pas la même pour
vous. Non. Qui a dit ça, Chassidoute Shalom? C'est la même pour tout le monde.
Dit
on voit clairement qu'il y a des gens, des apicorsim, d'accord, des gens qui sont nés dans la religion, qui sont, d'accord, bon, quelqu'un qui n'est pas né dans la religion, encore, on va dire, c'était pas de manière préméditée. Ah. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont fait de manière préméditée. On sait, il y en a, c'est clair qu'il y en a. Chaque génération, il y en a. D'accord, Becholdor, comme il dit ici. Il y a des gens qui sont apicoros, qui sont nés dans la religion, qui ont lâché de plein gré, qui savent parfaitement la gravité de ce qu'ils font.
Et les chabénomiens. D'accord.
Qui savent parfaitement la gravité de ce qu'ils font. Quand ils transgressent en Shabbat, ils savent exactement la gravité de ce qu'ils font. Et pourtant, ils vivent jusqu'à 80-90 ans. Et riches. Ils ont de l'oseille, ils ont tout ce que tu veux. C'est un problème.
Cela, il faut que tu attendes là-haut à quelque chose de
plus. Ah, pas mes affaires, ça. Non, ah, c'est les affaires de Dieu. Pas ma question.
Que celui qui part avant 60 ans, tu disais, c'était parce
ma question, qu'il a payé ici. Ma question n'est pas pourquoi il a de l'argent. Non, non.
Il n'y a rien là-haut. Non. On dit que celui qui part avant 60 ans, il monte directement au Gan Eden.
Ça, t'explique pourquoi il a de l'argent. Mais t'expliques pas pourquoi il n'est pas mort.
On n'a pas le même délire.
La Torah, elle te dit, celui-là, il doit mourir avant 60 ans. Il n'est pas mort. C'est technique, le gars, il n'est pas mort.
Oui. Et puis en même temps, le Zohar dit qu'il ne peut pas faire des Shuba, donc il ne peut pas mourir.
Donc il y a un problème.
Et quand on a le Il est dit.
Et on a dit dans le Tania, chapitre 3, d'accord, que si tu payes, tu ne meurs pas tout de suite.
Bon.
S'il est riche, celui-là, il a payé.
Donc, hein, là, vous comprenez que je m'arrête ici, il est déjà tard.
Avant la fin.
Moi, j'ai pas vu l'heure.
Comment ça rigoler,
ça. Alors, vous comprenez que toutes les trois questions qu'on a posées tournent toutes autour du même point. C'est toutes les questions qu'on vient de poser tournent toutes autour du même point. C'est quoi le point qu'on a posé? Le point qu'on a posé, c'est qu'on aimerait comprendre d'abord, qu'est-ce que c'est la séparation? À quel moment on considère qu'une Avera est une Avera?
Ah oui.
D'accord, d'abord, qu'est-ce que c'est le lien entre un juif et Dieu? Oui. À quel moment une Avera est appelée une Avera? Comment on peut réparer la Avera? Qu'est-ce que c'est la Teshuvah d'en haut? Qu'est-ce que c'est la Teshuvah d'en bas? Donc là maintenant, on voit qu'on... J'ai juste trois questions, hein, il y en aura encore d'autres après. Juste trois questions, on voit qu'on a été déstabilisé, on voit qu'on sait pas de quoi on parle. D'accord? Pour pas avoir toutes les réponses à ces questions, il faut venir en
passant dans le chat.
Voilà, ça arrête là.
Continuons, on va faire Arbit.
Oui. Arbit.
Bon, on va regarder l'autre.